Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin, à la technique, Alice Seyed. Et aujourd'hui, nous recevons l'ancienne économiste en chef du FMI.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre invité du jour a pris ses fonctions au FMI 2 semaines avant la faillite de Lehman Brothers. Le 15 septembre 2008, souvenez-vous, le monde basculait dans la crise et l'Europe découvrait avec stupeur l'ampleur de la dette grecque. Une dette qui menace alors de faire chavirer l'ensemble du vieux continent. Le FMI et l'Union Européenne sont appelés à la rescousse. C'est ce que raconte Costa Gavras dans son dernier film « Adults in the Room ». Alors quelles leçons tirer de la crise grecque ? Quel doit être le rôle du FMI et plus largement des économistes appelés au chevet des États et de leurs dirigeants? Autant de questions que nous allons poser à notre invité dans l'heure qui vient. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Bonjour Olivier Blanchard.
Bonjour.
Un immense merci de nous accorder ce grand entretien depuis les studios de la NPR, la radio publique américaine à Washington. Alors vous êtes économiste et c'est une profession que l'on a parfois du mal à circonscrire. Et c'est aussi une profession qui a été largement discréditée lors de la crise de 2008. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce métier, ce statut d'économiste ?
C'est une question compliquée parce qu'il y a différents aspects. Être économiste, c'est essayer de comprendre l'économie réelle avec les instruments qu'on a, qui sont quantitatifs. L'autre partie de la question, c'était est-ce que les économistes ont été discrédités ou sont discrédités à cause de la crise ? J'espère que non, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas prévu, et je n'avais pas prévu un certain nombre de choses qui se sont passées, mais je crois que c'est dans la nature des choses. On étudie quelque chose qui est une bataille très très compliquée. C'est plus à vous d'en juger. Je crois qu'on a fait énormément de travail. On a très vite compris ce qu'on n'avait pas compris. On a travaillé dessus. Je crois qu'on est, pour utiliser la formule habituelle, on est maintenant bien mieux prêt à combattre la dernière guerre. Le problème sera la suivante. Donc on essaie, bien sûr, de prévoir ce qui pourrait se passer. Mais il se passera des choses qu'on n'a pas prévues. C'est un peu dans la nature des choses.
Alors on va revenir évidemment sur la crise de 2008, sur la difficulté à anticiper cette crise, sur peut-être les signaux qui n'ont pas été vus. Mais d'abord, on vous définit souvent, Olivier Blanchard, comme un économiste néo-keynésien. Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans ce qualificatif ?
Oui, c'est d'ailleurs nouveau-keynésien plus que néo-keynésien. J'aime pas beaucoup les étiquettes, mais je partage la manière de réfléchir ou la vision qu'a développée Keynes initialement et qui ensuite a été bien sûr raffinée considérablement, qui est que à court terme, les développements économiques viennent de variations de la demande. À plus long terme, ils viennent de variations de l'offre, de ce que l'économie peut produire raisonnablement. Et c'est cette vision des choses qui me permet d'interpréter ce qui se passe dans différents pays. C'est un peu ça la vision nouveau-keynésienne.
Mais parfois on s'y perd un peu entre les néo-keynésiens, les post-keynésiens. Qu'est-ce qui caractérise ces néo-keynésiens ? Ou nouveau-keynésiens si vous préférez les appeler ainsi ?
C'est la nature des choses que les journalistes et que même les économistes aiment créer des écoles et qu'on voit des conflits entre différentes écoles. Ce sont souvent des différences qui sont minimes mais qui sont présentées comme très fortes. La théorie nouveau-keynésienne, c'est pas très joli, nouveau-keynésienne d'ailleurs, est basée sur l'idée de Keynes qu'à court terme, les fluctuations qu'on observe viennent de changements de demande. Par exemple, les consommateurs veulent consommer plus ou les entreprises veulent investir plus ou moins, que ça détermine l'équilibre à court terme. Au cours du temps, si le résultat, c'est que l'économie est en surchauffe, à terme, il y aura des mécanismes qui la feront retourner à un état d'équilibre plus sain, avec l'aide de la politique. Et c'est la manière dont cette école réfléchit, interprète les données, et fait des recommandations de politique économique.
Vous parliez de ces outils qui peuvent être mis en place par le politique. Vous pensez à quels outils en particulier ?
Il y a deux outils principaux du point de vue de la macroéconomie. C'est la politique budgétaire et la politique monétaire. Pendant pas mal de temps, on s'est Le travail a été fait principalement sur la politique monétaire, qui paraissait être l'instrument idéal pour réagir aux fluctuations, pour ralentir ou accélérer l'économie. On est rentré depuis une dizaine d'années dans une phase où il y a des limites très fortes à la politique monétaire, qui viennent du fait que les taux d'intérêt ne peuvent pas être baissés suffisamment. Et donc il y a plus maintenant de recherche et de recommandations d'utiliser la politique budgétaire, plus qu'on ne l'a fait dans le passé.
Alors on va voir si c'est aujourd'hui une solution pour l'Europe, cette relance budgétaire. Mais d'abord, revenons un petit peu sur votre formation, Olivier Blanchard. Vous avez commencé vos études en économie à Paris et à Nanterre. Qu'est-ce que vous retenez de ces années de formation ?
Du point de vue de l'économie elle-même, pas grand-chose. J'ai pas appris grand-chose. Ça tenait probablement partiellement à moi et partiellement à la qualité des cours. Ce qui m'a fait aimer l'économie, ça a été 1968, ce qui s'est passé au printemps et pendant l'été, où j'ai compris l'importance de l'économie dans la société. Et je me suis dit, on peut peut-être en effet travailler sur des choses absolument passionnantes en utilisant des outils mathématiques et répondre à des questions qui peuvent affecter le bien-être de beaucoup de gens.
Qu'est-ce qui, dans le mouvement de mai 68, vous a fait prendre conscience de l'importance de l'économie ?
Rien de précis. Je veux dire, en 68, j'étais très naïf et je voulais, comme les autres qui étaient dans la rue avec moi, je voulais changer le monde, améliorer le monde. Mais c'était très abstrait et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut le faire ? Et il m'a semblé que l'économie était une de ces sciences sociales qui pouvait être la plus utile. Plus, par exemple, que la sociologie ou même la science politique.
Et pourquoi cela ?
Parce que on travaille sur des problèmes qu'on peut quantifier mieux que, par exemple, certains problèmes les questions que se posent la sociologie ou la science politique. Il me semble qu'il y a une adéquation entre les outils qu'on peut utiliser, les bases de données qu'on a et les questions qu'on se pose, et donc la possibilité d'avoir des réponses relativement précises à un certain nombre de questions fondamentales.
Et ce ne sont donc pas les cours qui vous ont donné véritablement le goût de l'économie. Vous avez carrément déclaré au Washington Post, il y a quelques années, que l'enseignement des sciences économiques à la française était abominable.
Oui, c'est peut-être un peu fort, mais il n'était pas très bon sûrement. Il y avait, en gros, en France à l'époque, caricature toujours, mais deux écoles, une école de tendance marxiste et puis une école de tendance non idéologique, très abstraite, qui essayait de reconstruire l'économie sur la base de modèles mathématiques très précis, qui était très très loin de la réalité, qui était une espèce de refondation de l'économie, mais tellement loin de la réalité que pour moi c'était trop loin, ça ne résonnait pas. Et je cherchais quelque chose entre les deux, et je ne l'ai pas trouvé en France, je l'ai trouvé aux États-Unis quand j'y ai été.
Vous l'avez trouvé en particulier au MIT, au Massachusetts Institute of Technology. C'est pour ça que vous avez choisi de poursuivre votre formation là-bas ?
Oui, absolument. Enfin, c'est eux qui m'ont choisi, très gentiment. Mais en effet, j'ai trouvé un endroit où les gens étaient à la fois très préoccupés d'expliquer la réalité, mais étaient prêts aussi à utiliser des techniques quantitatives, des instruments mathématiques au service de ces questions. C'est quelque chose que je n'avais pas trouvé en France.
Et selon vous, comment est-ce qu'on pourrait améliorer justement l'enseignement de la discipline économique en France ?
Écoutez, on m'a demandé deux fois de suite de regarder l'enseignement de l'économie dans le secondaire. Et donc j'ai fait deux rapports successifs. Et ce qui m'a frappé, c'était que c'était enseigné un peu comme la géographie, comme une série de faits à apprendre par cœur, plus que comme une méthode de raisonnement. Et je crois que la manière de rendre l'économie passionnante, et elle peut être passionnante, c'est de montrer à quel point on prend une question importante, et à ce moment-là, on utilise des outils pour essayer d'y répondre, et puis ça vous amène à une première réponse. Ensuite, vous réalisez qu'il y a un autre élément qui est important, que vous essayez de l'intégrer. Ensuite, vous servez de ces modèles conceptuels ou de ces modèles analytiques pour regarder les données, et on a de plus en plus de données maintenant sur les questions qui nous intéressent, et vous arrivez à des conclusions qui sont, si vous avez eu du succès, des conclusions qui sont plausibles et qui ont des implications de politique économique. C'est cette interaction entre questions, faits, modèles qui, moi, m'a toujours passionné, avec l'idée qu'à la fin, on arrive à des conclusions qui peuvent peut-être améliorer les politiques.
Donc une grande importance des données, et en même temps ce que vous dites, c'est que dans l'enseignement de la discipline économique, il faudrait peut-être inclure davantage la sociologie.
Je pense qu'il faut être assez ouvert, assez encyclopédique. Je pense qu'en effet, pour comprendre le comportement des consommateurs, avoir des éléments de psychologie, c'est très important. Il y a des mouvements de foule qui sont probablement mieux expliqués par les sociologues que par les économistes. Je suis assez pragmatique, assez éclectique.
Et alors, Olivier Blanchard, quelles sont les figures ou les ouvrages qui vous ont influencé pendant ces années de formation, en particulier aux États-Unis? Alors, vous avez travaillé sous la direction de Stanley Fischer. Est-ce qu'il y a des figures en particulier que vous retenez et que vous auriez envie d'évoquer aujourd'hui?
Oui, j'ai été certainement très, très impressionné et très affecté par les profs que j'ai eus à MIT. Il y avait toute une série de gens tout à fait extraordinaires. Il y avait Paul Samuelson, qui est tout de même un des fondateurs de la macroéconomie ou de l'économie moderne. Il y avait quelqu'un pour qui j'ai une passion à la fois intellectuelle et plus, c'est Robert Solow. J'ai d'ailleurs l'honneur d'être le Robert Solow professeur à MIT. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la théorie de la croissance, qui a développé un modèle de croissance dans les années 60, qui s'est révélé être un extraordinaire modèle en termes de, qui permet d'organiser cette information extraordinairement complexe sur la manière dont les pays se développent, dans des modèles mathématiques qui permettent de poser des questions plus précises et d'obtenir des réponses. Et là encore, ce qui m'a frappé, c'est à quel point il y avait cette interaction entre questions, données, modèles, pour arriver à une manière de réfléchir aux choses qui permettait de répondre à toute une série de questions. Donc Robert Solow certainement a été un de mes gourous, si vous voulez. Mais il y en a eu beaucoup d'autres.
Et si l'on devait faire, en quelque sorte, une cartographie du paysage économique, macroéconomique de l'époque, dans les années 70, Olivier Blanchard, la discipline macroéconomique, dites-vous, était un champ de bataille. Elle était marquée par de nombreuses divisions.
Oui. Pendant assez longtemps, la macroéconomie a été dominée par MIT, en gros, avec cette vision qui ne s'appelait pas encore à l'époque nouvelle-keynésienne, mais qui était ça, et qui a été remise en cause par des gens qui ont décidé de s'appeler les néoclassiques. Là encore, il faut trouver des étiquettes pour avoir de la visibilité, qui étaient des gens qui s'appelaient Robert Lucas ou Tom Sargent, et qui ont dit la macroéconomie doit être reconstruite à partir de fondations microéconomiques précises, et ont développé un programme de recherche qui était assez différent. Et pendant un certain temps, ça a été une bataille rangée entre les économistes de MIT qui disaient, idéalement, ce serait très bien de partir de fondations microéconomiques, mais de fait, c'est beaucoup trop compliqué. Essayons de partir avec des modèles qui sont plausibles et qui expliquent la réalité.
Mais c'était une différence de méthode ou de conception, pardon de vous interrompre?
Je crois que l'école de MIT, si on peut utiliser ça, faisait l'hypothèse que c'est impossible. Idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est partir du comportement de chaque individu, ensuite de regarder les interactions entre les individus et reconstruire ensuite la macroéconomie sur la base de ça. Mais formaliser les interactions de 7 milliards d'individus, c'est pas absolument évident. Donc, traditionnellement, la macroéconomie, c'était de simplifier et de dire, faire des hypothèses plausibles sur le comportement des consommateurs ou des hypothèses plausibles sur le comportement des entreprises qui sont inspirées de la théorie économique, mais qui n'insistent pas pour partir vraiment des individus eux-mêmes un par un. Il faut, en gros, accepter de prendre des raccourcis et d'écrire des modèles qui sont simples et qui capturent la réalité. Le danger de ça, c'est que c'est un art, parce que comment est-ce qu'on est fait, comment est-ce qu'on décide de ce qui est important, de ce qui n'est pas important. Et donc l'approche de l'autre école, c'était de dire non, ça marche pas, ça va amener à des conclusions qui ont l'air plausibles, mais qui sont peut-être fausses. Il faut vraiment partir de la base, des comportements individuels, de la rationalité individuelle et construire. La réaction de MIT, c'est que si vous faites ça, vous n'arriverez jamais à capturer l'essence, parce qu'il y a trop de choses, et vous n'arriverez jamais à donner des conclusions de politique économique qui soient convaincantes. Donc c'était ce combat méthodologique entre les deux.
Voilà. Concrètement, les lignes de fracture entre néoclassiques et néo-keynésiens se trouvaient au niveau, par exemple, de l'inflation ou de la question du chômage?
Oui, alors en plus, il y avait une dimension... Là, j'ai parlé des différences méthodologiques, mais il y avait une autre différence qui était une différence idéologique. C'est que les économistes de MIT étaient prêts à accepter l'idée que l'économie ne marche pas parfaitement sans intervention gouvernementale, qu'il y a une série de distorsions, de problèmes qui se posent et qui font que l'économie, quelquefois, se porte très mal, bon, à la Grande Dépression ou la crise financière, et donc étaient beaucoup plus enclin à donner un rôle au gouvernement et à regarder quelles étaient les politiques qu'on pouvait prendre. Les autres avaient plus une vision où l'économie de marché marchait bien et que le gouvernement devait avoir un rôle beaucoup plus limité.
On a parlé de l'un de vos professeurs, Stanley Fisher, Olivier Blanchard. Je vous propose justement de l'écouter. Nous devons aussi considérer la possibilité que la faible demande a joué un rôle dans le ralentissement de la croissance de la productivité, bien que les manuels d'économie standard prennent pour point de départ la productivité, qui affecterait ensuite la demande plutôt que l'inverse. Janet Yellen s'est récemment exprimée au sujet de l'influence de la demande sur l'offre. Dans son discours, elle évoque un corpus littéraire qui suggère que les conditions créées par la demande peuvent avoir un effet persistant sur l'offre. Dans la plupart de cette littérature, ces effets se mettent en place à travers l'effet d'hystérèse sur le marché du travail. L'hystérèse est un phénomène de court terme qui a des conséquences sur le long terme. Dans la plupart de cette littérature, ces effets se mettent en place à travers des canaux dans lesquels il se passe certaines choses. Les gens abandonnent le marché du travail, ils en restent exclus pendant un long moment.
Olivier Blanchard, quel est cet effet d'hystérèse dont parle ici Stanley Fisher et auquel vous avez vous-même consacré un article avec l'économiste Larry Summers dans les années 80?
Oui, non, je crois que c'est nous d'ailleurs qui avons introduit la notion d'hystérèse en économie. Il y avait une séparation conceptuelle entre les chocs de demande qui expliquaient les fluctuations, mais qui n'avaient pas d'effet à long terme, et les chocs d'offres de productivité qui avaient des effets à long terme. Et ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, la séparation entre les deux était assez arbitraire. On pouvait parfaitement penser à des chocs de demande qui avaient des effets à long terme. Si par exemple il y a un choc de demande qui fait qu'on a une récession forte, il y a un certain nombre de gens qui vont se retrouver au chômage, et si la récession dure suffisamment longtemps, vont avoir du mal à trouver un autre boulot et vont perdre un certain nombre de qualités nécessaires à retrouver un travail. Et donc si la récession dure suffisamment longtemps, il y a des gens qui deviennent incapables de travailler ou de trouver un boulot qui correspond à leur capacité.
Donc le chômage sera structurellement plus haut.
Donc ça peut exactement. Donc une augmentation du chômage conjoncturel dû au choc de demande peut devenir à terme un chômage structurel.
Et alors comment on lutte contre cet effet d'hystérèse?
On lutte à la fois en essayant de réduire au maximum le chômage conjoncturel, c'est-à-dire que quand il y a un ralentissement de la demande, il faut utiliser des politiques pour essayer de relancer la machine et éviter que le chômage augmente trop. Et puis ensuite, il faut réfléchir à ces mécanismes qui transforment un chômage conjoncturel en chômage structurel. Donc si on pense par exemple que les gens perdent une capacité à travailler, il faut mettre en place des systèmes de formation professionnelle qui leur permettent de re-rentrer dans la force de travail, de retrouver des boulots. Il faut travailler sur les deux marges, il faut essayer de limiter les chocs, et dans la mesure où il y aura toujours des chocs, essayer de faire que les gens qui se retrouvent exclus du marché du travail puissent y retourner.
Venons-en maintenant, Olivier Blanchard, à vos années au FMI entre 2008 et 2015. Et d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé au moment de la faillite de Lehman Brothers, qui est intervenue, comme je le disais en introduction, 15 jours après votre arrivée au poste d'économiste en chef?
La terreur et la manière la plus simple de le décrire. Parce que d'un seul coup, il se passait des choses qu'on comprenait mal et on savait pas du tout où ça allait. Donc, il y a eu quelques semaines d'incertitude au sens de ne même pas comprendre ce qui se passait vraiment, de réaliser que toute une série de choses qu'on n'avait pas regardées, qui étaient sous terre, avaient finalement beaucoup d'importance. Et donc, l'idée qu'il fallait très vite comprendre au moins l'essentiel de manière à pouvoir prendre des mesures pour contrecarrer ce qui se passait, et ça se passait très très vite. Mais c'est certainement, quand vous m'avez posé la question au départ de si les économistes avaient été déconsidérés à cause de la crise financière, il est vrai que la majorité des économistes, et je me mets dedans, n'avaient pas réfléchi à ce genre de choc, n'avaient pas réalisé la complexité du système financier, et donc il a fallu apprendre très vite. Je pense qu'il a fallu, en quelques mois, on a commencé à comprendre, mais ça aurait été mieux, en effet, d'avoir compris avant.
It was, I guess, the central bankers of the world.
Il y avait, je suppose, tous les banquiers centraux du monde, à commencer par M. Greenspan lui-même, Ben Bernanke, Larry Summers était là aussi, Tim Geithner aussi. Le titre de mon discours était « Le développement financier est-il un risque pour le monde ?» Et la conclusion était « Il l'est ».
It's very easy to generate performance by taking on more risk.
Il est très facile de générer du profit en prenant plus de risques. Il faut donc intégrer un facteur risque au calcul du profit. Et c'est là que sont enterrés tous les cadavres. Summers a réagi avec force. En gros, il pensait que je critiquais les évolutions dans l'univers de la finance. Et il craignait que la réglementation n'entrave ces évolutions. Il m'accusait d'être rétrograde. Il voulait être sûr qu'on ne crée pas tout un tas de nouvelles réglementations afin de brider la finance. Un extrait du documentaire Inside Job réalisé par Charles Ferguson. Alors on vient d'entendre Raghuram Rajan qui vous a précédé au poste d'économiste en chef du FMI. C'était en 2005. Alors comment comprendre que cette crise financière justement n'ait pas été mieux anticipée par les économistes? Est-ce que c'est parce que les théories néo-keynésiennes ou nouveau-keynésiennes, comme vous dites, n'ont pas assez pris en compte le secteur financier? Et si oui, pourquoi?
Non, il est certain que Raghu a donné une présentation prémonitoire qui n'a pas été écoutée parce qu'à l'époque, les gens qui travaillaient en finance avaient l'impression que les développements en matière de nouveaux instruments étaient quelque chose de positif et pas très dangereux. Et Raghu n'a pas été écouté à tort parce qu'en effet, il fait partie de ces quelques économistes qui avaient réalisé qu'il y avait un problème. Pourquoi est-ce que la majorité des macroéconomistes avaient sous-estimé les problèmes du système financier? Largement parce qu'il y avait eu cette très longue période qu'on appelle en français la grande modération, du milieu des années 80 jusqu'à la crise financière, où l'économie s'était fort bien portée, il y avait eu peu de fluctuations, l'inflation était à peu près stable, le chômage était à peu près stable. Et donc les macroéconomistes avaient conclu, incorrectement, qu'on avait trouvé les moyens de stabiliser l'économie. Et donc personne n'avait pensé à explorer ce qui pourrait se passer, parce que ça ne se passait pas.
Parce qu'à l'époque, donc, le FMI recommandait à d'autres pays de favoriser par exemple la diffusion des méthodes de titrisation, dont on a vu après les limites par exemple.
Oui, mais c'est un bon exemple, parce que même en temps réel, l'idée de la sécuritisation ou titrisation est une bonne idée. Ça permet en effet de distribuer le risque beaucoup mieux qu'en l'absence de titrisation. Mais ce qu'on a, donc c'était un développement favorable.
Et le problème, ça a été les dérives de la titrisation.
Mais ça a été les dérives, et les dérives ont été, donc les économistes qui travaillaient sur la question voyaient l'aspect positif, qui était la meilleure répartition du risque, que le risque n'était pas entièrement dans les bilans des banques, il était réparti dans des fonds, et donc en principe c'était une bonne chose. Mais à moins d'être très très proche de leur sujet, ils n'ont pas vu les dérives. Et donc, ce qui s'est passé à la fin, c'est que les dérives se sont révélées catastrophiques. L'idée était bonne.
Vous parliez au début de cette émission d'économie réelle et on se demande un petit peu comment comprendre que le FMI n'ait pas alerté, par exemple, sur le fait que les financements hypothécaires étaient octroyés à quasiment tout le monde sans garantie, ce qui faisait peser un risque important sur les institutions financières. Est-ce qu'il n'y avait pas une déconnexion de ce qui se passait au quotidien dans les crédits qui était accordé?
Oui, non, a posteriori, il est absolument évident que quelqu'un aurait dû tirer la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme a été tirée ici et là, mais pas très fort et sans beaucoup d'effet. En même temps, c'était dans un environnement où la perception était qu'il y avait très peu de chances que les prix de l'immobilier baissent, parce qu'ils n'avaient en effet pas baissé depuis des décennies, et que donc l'hypothèse qu'ils puissent baisser et que ça crée des problèmes, les problèmes qu'on a vus, était une hypothèse que les gens rejetaient comme étant très très peu probable. Là encore, ça s'est révélé être faux.
Et alors, en quoi consistait concrètement votre mission au FMI, Olivier Blanchard? Vous étiez à la fois patron de la recherche et conseiller économique en chef. Et alors, en quoi ça consiste?
Ben, c'est les deux. Patron de la recherche, c'est d'aider l'équipe de recherche, qui est assez large, à travailler sur les problèmes du moment, mais pas nécessairement dans des réponses le jour même. Dans certains cas, il faut des réponses le jour même. Quelquefois, il faut des réponses dans le mois. Quelquefois, on a un ou deux ans pour réfléchir aux problèmes. Mais d'essayer de réfléchir à quels étaient les problèmes du moment, les problèmes qu'on comprenait mal, et ce qu'on pouvait, comment on pouvait améliorer notre connaissance. Et puis, l'autre boulot, c'est l'aspect concret, c'est-à-dire quand un pays se retrouvait dans une situation difficile, le Fonds monétaire avait à décider de est-ce qu'il allait aider, comment il allait aider, quelles mesures il allait demander. Et là, on est obligé d'appliquer au mieux cette connaissance imparfaite qu'on a à des cas très concrets, avec des implications à la fois économiques et humaines absolument gigantesques.
Vous avez décliné deux fois la proposition du FMI avant de l'accepter la troisième fois. Pourquoi cela?
Principalement parce que je pensais que si j'allais au Fonds monétaire, c'était pour faire quelque chose de différent de ce que je faisais à MIT comme chercheur. Et donc je voulais être impliqué dans le processus de décision. Ne pas juste être le directeur de la recherche, mais être une des personnes qui contribuent aux décisions que le fonds allait prendre. Et les deux premières fois, je n'ai pas eu le sens que ça se passerait comme ça. Et quand Dominique Strauss-Kahn m'a demandé de venir, il a été très explicite sur le fait qu'en effet, il m'impliquerait dans les décisions.
Eh bien justement, je vous propose d'écouter Dominique Strauss-Kahn, qui est effectivement président du FMI à l'époque, en 2010.
We are not in the charity business.
Nous ne faisons pas la charité. Nous sommes une institution financière. Et l'argent que nous utilisons est l'argent d'autres pays. Vous savez, le FMI est une sorte de caisse coopérative dans laquelle les pays du monde entier mettent de l'argent afin d'aider ceux qui sont en difficulté, mais ils veulent être remboursés. Et en aucun cas, ces pays ne peuvent prêter cet argent en se disant qu'ils ne vont pas être remboursés. Imaginons que l'argent que nous prêtons, vous avez parlé du Pakistan, mais cela pourrait être l'Ukraine, la Lettonie, la Grèce. Le fait est que l'argent que le FMI prête vient de partout, y compris du Mali, du Niger, des pays très pauvres, et il n'y a aucune raison pour que ces pays, qui sont heureux de participer au prêt, dans leur mesure évidemment, ne soient pas remboursés. Et la question est de savoir comment y parvenir. Parfois, nous ne pouvons pas simplement effacer. Comment le pourrions-nous? Pas juste en déclarant « nous effaçons », mais bien parce que nous obtenons de nos membres les ressources qui rendent possible d'oublier certains prêts et d'effacer certaines dettes. Nous effaçons beaucoup. Ce n'était pas dans la tradition de cette institution. Je l'ai décidé, j'ai demandé à mes équipes de me suivre. Ils m'ont suivi, ce qui veut dire que les conseillers ont décidé de mettre de l'argent sur la table pour rendre cet effacement possible. Mais ensuite, nous devons revenir à une situation normale.
Selon Dominique Strauss-Kahn, le rôle du FMI n'est pas d'effacer les dettes, mais il peut le faire dans certaines situations. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos, Olivier Blanchard?
En général, quand un pays est en difficulté, il faut faire un certain nombre de choses de manière à ce qu'ils puissent retrouver le retour à l'équilibre. Quelquefois, ce qui est nécessaire, c'est un changement de politique économique. Souvent, les pays se retrouvent en difficulté parce que la politique économique n'a pas été très bonne. Donc, il suffit dans ce cas-là d'un changement de politique économique, aidé par le fonds, où le pays s'engage après un certain nombre de réformes, et ça suffit à faire tourner les choses et à permettre au pays, avec une aide financière du fonds, de retourner à l'équilibre.
C'est-à-dire que c'est une condition, finalement, de changer sa politique économique, une condition pour un éventuel effacement de la dette.
C'est une condition pour l'amélioration de la santé du pays. Alors, quelquefois, ce qui se passe, c'est que le niveau de la dette que le pays a accumulé est tel que même s'il prenait toutes les bonnes mesures, le poids de la dette resterait trop lourd. Auquel cas, il faut en effet restructurer la dette, c'est-à-dire diminuer les créances des créanciers et permettre au pays de repartir sur des bases plus saines. Donc ça n'est pas, il y a des cas dans lesquels ça n'est pas nécessaire, il suffit juste de changer la politique économique et puis de donner une aide financière de manière à ce que le pays puisse faire ce qu'il doit faire. Quelquefois il faut faire plus. Donc c'est une option que le fonds a quand il va dans un pays et qu'il décide de l'aider, de décider si les dettes vont être remboursées intégralement ou pas.
Et pour la Grèce justement, il aurait peut-être fallu faire plus, on en parle dans un instant. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et ce sont les notes de la gymnopédie numéro 1 d'Eric Satie, interprétée par Daniel Varsano, que l'on entend ici. Pourquoi ce choix musical, Olivier Blanchard ?
C'est l'aspect minimaliste que j'aime, et j'y vois un rapport avec la manière dont j'aime faire de la recherche. J'essaie, quand j'y arrive, ce que je sais de faire, c'est d'écrire des modèles qui soient aussi simples que possible, mais qui en même temps permettent d'expliquer des choses très importantes. Et pour une raison quelconque, quand j'écoute Eric Satie et j'écoute Gymnopédie, j'ai le sentiment que lui a réussi à le faire en musique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce morceau.
Et vous étiez donc économiste en chef du FMI lorsqu'en 2010 éclate en Europe la crise des dettes souveraines. Comment d'abord la crise financière venue des États-Unis a-t-elle provoqué une crise de la dette en Europe ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé, Olivier Blanchard ?
De manière très simplifiée, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre d'institutions financières européennes se sont retrouvées en difficulté. Et que la question a été, est-ce qu'on allait les sauver ? Et si on allait les sauver, est-ce que les États avaient les moyens financiers de les aider ? Ce qui a amené les marchés à se poser des questions sur l'état des finances publiques, et dans un certain nombre de cas, de conclure qu'il y avait un danger, que les États eux-mêmes ne puissent pas rembourser ou payer les intérêts sur leurs dettes.
Et c'est la Grèce qui concentre alors toutes les inquiétudes.
Alors la Grèce étant le cas extrême, oui.
Or, dès 2010, le FMI appelle à une restructuration de la dette grecque, mais la Commission européenne refuse. Pourquoi cela, Olivier Blanchard? C'est parce qu'elle craint la contagion à d'autres pays européens?
Oui, ce qui se passe en effet, de notre point de vue, le point de vue du Fonds monétaire et de mon point de vue à l'époque, il nous paraît évident que la dette grecque est trop lourde pour que la Grèce puisse s'en sortir sans une restructuration de la dette, sans une diminution de la dette. Mais pour le faire, il faut l'accord de la Banque Centrale Européenne, et qui à l'époque est dirigée par M. Trichet. Et M. Trichet est terrorisé à l'idée qu'un des pays de la zone euro ne rembourse pas sa dette. Il pense que ce serait catastrophique.
Et c'est une inquiétude légitime, selon vous ?
Qui est une inquiétude légitime, c'est-à-dire qu'il y a un danger de contagion qu'il aurait pu essayer de limiter en indiquant que s'il y avait une restructuration de la dette grecque et qu'il y avait une attaque sur d'autres pays, la Banque centrale interviendrait pour soutenir les autres pays. Mais il n'était pas prêt à le faire à l'époque. Il ne voulait pas de restructuration de la dette grecque. Et en l'absence de mesures de contre-feu par la Banque Centrale Européenne, le Fonds monétaire n'avait pas de choix. Soit de ne pas participer au programme, soit de participer au programme avec cette condition qui nous paraissait à l'époque une mauvaise décision.
Et c'est pour ça que vous étiez sceptique à l'époque vis-à-vis du plan d'aide, du premier plan d'aide accordé à la Grèce.
J'étais sceptique pour deux raisons. La première, c'est que je pensais que, en effet, il fallait réduire la dette pour donner une chance à la Grèce. Et j'étais également sceptique sur l'idée que la série de réformes structurelles qu'on demandait à la Grèce avait une chance d'être mise en place. Connaissant la Grèce et connaissant la difficulté de mettre des réformes structurelles, de faire passer des réformes structurelles, surtout dans un environnement très difficile, j'étais assez sceptique sur le fait que ces mesures passeraient, et donc assez sceptique sur le fait que la Grèce pouvait retourner à un taux de croissance positif rapidement.
Les négociations entre la Troïka et le gouvernement grec ont souvent été houleuses, notamment en 2015. Le réalisateur Costa Gavras y a consacré son dernier film, Adults in the Room. On l'écoute.
J'étais un tout interpellé, si vous voulez, par le drame que vivaient les Grecs à cette époque-là, et qui continue d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était d'une violence extrême. Les gens partaient, les jeunes diplômés partaient à l'étranger, le chômage était monté à 28%, les salaires avaient baissé de 40%, et c'était une tragédie. Les magasins fermés, c'était épouvantable pour la Grèce. Je recevais des coups de fil et puis des amis qui disaient ce qui s'est passé. Et il y avait une sorte d'indifférence totale, parce qu'il fallait, disons, sauver l'euro. Voilà, c'était ça l'idée, et au-delà de cette idée-là, rien ne comptait. J'ai voulu faire à un moment donné une sorte de mélodrame énorme, et puis très vite, j'ai abandonné l'idée pour faire une sorte de tragédie, un peu comme la tragédie grecque. Voilà, c'est ça l'idée qui est née très vite.
Voilà, Costa Gavras, chez nos confrères de France Inter. À quel moment, selon vous, Olivier Blanchard, le FMI a sinon pris conscience des effets négatifs provoqués par l'austérité, au moins l'a affirmé publiquement?
Je crois que le Fonds monétaire a pris conscience du problème de l'absence de restructuration de la dette presque immédiatement, sans pouvoir faire ce qu'il fallait, il a fallu attendre. Sur l'effet des réformes structurelles, il y a eu des débats à l'intérieur du Fonds pendant un certain temps, et puis au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu qu'il ne se passait pas grand-chose, au moins pas suffisamment pour changer vraiment la donne.
Et, cela a provoqué un revirement idéologique au sein du Fonds monétaire ?
Idéologique ? Peut-être pas, mais je pense qu'on a réalisé les effets négatifs de la consolidation budgétaire, et donc on a essayé dans le cadre de ce programme commun avec la Commission européenne de faire qu'il soit moins extrême qu'il ne l'avait été dessiné dans les deux premiers programmes.
Il y a un effet auquel beaucoup ne s'attendaient pas, c'est le fait que malgré des taux d'intérêt déjà proches de zéro, les ménages comme les entreprises ont adopté le même comportement de désendettement que celui des États. Ça, c'est un comportement que l'on n'a pas suffisamment anticipé.
Ça fait partie des choses qu'on avait mal anticipées, absolument, oui.
Parce qu'il y a cette idée d'un effet multiplicateur, le fameux effet multiplicateur de Keynes, qui aurait été sous-estimé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie, Olivier Blanchard ?
Mais il y avait... D'abord, la Grèce s'était tout de même mise dans une situation effroyable. Le problème de la Grèce n'était pas entièrement dû au programme du FMI, au programme de la Commission européenne. La Grèce avait un niveau de dette excessivement élevé et un déficit budgétaire excessivement large. Et donc, il fallait, même si on était prêt à financer une partie des déficits, et les programmes de la Commission, les programmes communs, ont mis beaucoup d'argent en Grèce, c'était tout de même absolument nécessaire de diminuer les déficits assez considérablement et assez vite.
Je vous pose la question, Olivier Blanchard, parce que j'aimerais savoir si c'est une erreur de calcul ou si c'est une erreur dans la conception même du modèle.
Non, c'est une erreur. Il y avait un aspect arithmétique, c'est qu'une fois que la Commission européenne et le Fonds monétaire avaient décidé qu'ils pouvaient donner tant, ça limitait la possibilité de faire avoir des déficits très larges pendant très longtemps. Il n'y a justement pas suffisamment d'argent. Donc il était clair que, bien que les programmes aient été très généreux en termes financiers, il était clair qu'il fallait une consolidation, c'est un euphémisme, une contraction budgétaire très forte. Il n'y avait pas le choix. Mais il y avait un désaccord sur les effets que ça aurait. Et il y avait une école, non seulement au FMI, mais aussi à l'extérieur du FMI, disant, si on fait une contraction budgétaire qui est responsable, et on montre que maintenant, on attaque vraiment les problèmes fondamentaux qui se posent à la Grèce, ça va créer un optimisme chez les investisseurs, chez les Grecs eux-mêmes. Et donc, bien que la contraction budgétaire a des effets directs négatif sur la demande, il y aura un effet d'optimisme, surtout si on y prenne des réformes structurelles, qui fera que l'effet final sera positif. Bien qu'on ait une contraction budgétaire, en gros, ça fera repartir l'économie à cause d'un changement d'attitude, de plus d'optimisme.
Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
Et puis, il y avait des gens comme moi qui disaient que c'était peu probable que ça se passe comme ça, et que l'effet direct serait l'effet principal, et qu'on aurait donc une contraction de l'activité économique qui risquait d'être très, très forte. Et malheureusement, c'est moi qui avais raison.
Et donc concrètement, quand l'État réduit son déficit, l'effet négatif sur le PIB est beaucoup plus important que prévu. C'est ça l'effet multiplicateur.
L'effet multiplicateur, c'est qu'en effet, quand l'État diminue son déficit, par exemple, en augmentant les impôts ou en diminuant les dépenses, ça a un effet sur la production. Un effet direct et puis éventuellement un effet indirect, parce que si la production diminue, les revenus diminuent, donc les gens dépensent moins, c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et donc, en effet, pour retourner à ce qu'on disait il y a deux minutes, il y avait des gens qui pensaient que l'effet multiplicateur serait en fait, aurait le signe inverse, c'est que la contraction budgétaire relancerait l'optimisme et donc aurait un effet positif sur la demande dans son ensemble, et puis des gens comme moi, des gens qui plus traditionnellement, penser que non, l'effet direct de contraction, soit par des impôts plus élevés, soit par une diminution de la dépense, aurait des effets négatifs, des effets multiplicateurs assez larges. Et la réalité, c'est qu'en effet, ces effets multiplicateurs ont été assez larges.
Aujourd'hui, la dette grecque atteint toujours 180% du PIB. Quelles leçons est-ce qu'on a tiré de cette crise, Olivier Blanchard ?
Bon, d'abord, elle est très élevée, mais à des taux très bas et à des maturités très longues. Donc, ce n'est pas aussi catastrophique, si on regarde le futur, que le chiffre que vous avez donné suggère. Mais c'est vrai que c'est très élevé, et c'est vrai qu'il faudra que la Grèce rembourse éventuellement. Quelles sont les leçons de la crise grecque ? C'est que quand un pays est en difficulté, il faut vraiment se demander s'il sera capable de sortir de l'ornière sans réduction de la dette. Et je pense que, dans le cas de la Grèce, c'était clair a posteriori que ça n'était pas le cas, mais je pense que ça se pose dans d'autres pays et dans d'autres conditions. C'est ce qu'il faut être prêt à faire. Quand il y a un programme, être prêt à dire vous êtes endetté trop, il faut réduire ça avant de repartir.
On va ouvrir un dernier chapitre, Olivier Blanchard, sur l'actualité économique et notamment sur la situation économique de l'Europe. Quel regard aujourd'hui vous portez sur l'économie européenne et est-ce que selon vous, il est nécessaire de mettre en place aujourd'hui une politique budgétaire de relance ? C'est l'un des débats actuels et notamment c'est une idée qui a été suggérée, c'est un euphémisme, à l'Allemagne qui est un pays qui pourrait se le permettre. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Blanchard ?
Je pense qu'en effet, on est dans une situation où il faut être prêt à avoir une politique budgétaire de relance. Et certainement, si l'activité économique ralentit encore plus, la raison est très simple, c'est que la politique monétaire est arrivée à peu près au bout de ses forces. On ne peut pas diminuer les taux d'intérêt beaucoup. On peut introduire certains nouveaux programmes, mais ça ne fera pas grand-chose. Donc, s'il y a un ralentissement de l'activité économique en Europe, il faut être prêt à avoir une relance budgétaire. À ce stade, vu les taux d'intérêt très bas, une relance budgétaire qui implique peut-être une augmentation de la dette n'est pas une catastrophe du tout. C'est bien plus important de réduire le chômage ou d'éviter sa montée que d'avoir une diminution de la dette, qui est la politique actuelle.
Vous êtes également un spécialiste du marché, Olivier Blanchard, et je voudrais qu'on parle des réformes entreprises en France dans ce domaine. Mais avant cela, je vous propose d'écouter l'économiste Daniel Cohen.
Le MEDEF était demandeur par-dessus tout, et le reste, je pense, est vraiment du deuxième ordre dans l'échelle de ses demandes, d'un plafonnement des indemnités prud'homales. C'était l'obsession, être capable de savoir à l'avance si on peut licencier les gens à tel et tel coût. Bon, en face de cette immense concession, on aurait pu imaginer beaucoup de choses très intéressantes. Un exemple simplissime, les CDD. Tout le monde sait que c'est le poison, le piège dans lequel les jeunes, les nouveaux entrants sont constamment enfermés. Mais pourquoi est-ce que personne n'a proposé qu'en contrepartie de ce plafonnement ou ce qui aurait pu être une amélioration du fonctionnement des prud'hommes, on ne supprime pas les CDD? C'est-à-dire qu'on dit, bah maintenant, il y a un tarif qui permet de savoir combien ça coûte de se débarrasser de quelqu'un. Encore une fois, ça n'était pas ma ligne de pente, mais admettons ce raisonnement. En échange, j'enlève cette pathologie majeure du fonctionnement du marché du travail français, qui est le CDD, qui met à résidence les outsiders, comme on dit parfois. Cette discussion n'a même pas commencé. On a été unilatéralement dans un seul sens. Rien de tout ça n'a été fait. Donc pour moi, c'est plus une occasion ratée de remettre sur la table, en effet, les dysfonctionnements du système français en ayant ce sens du compromis social, de chercher à voir quels sont les acteurs que je veux faire avancer.
Olivier Blanchard, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue de Daniel Cohen qui était reçu sur France Inter en septembre? On a perdu le sens du compromis social?
Bon, d'abord, Daniel oublie que certains d'entre nous ont mis ces questions dans la discussion. Il y a un rapport que j'ai écrit avec Jean Tirole qui dit à peu près ce que Daniel vient de résumer. Il y a des problèmes sérieux en France. Cette séparation entre CDD et CDI a créé presque deux classes de travailleurs et est très malsaine.
Donc il faut supprimer les CDD, comme le propose Daniel Cohen?
Il faut avoir quelque chose de beaucoup moins dichotomique, c'est-à-dire une évolution où les droits augmentent en fonction de la séniorité. Mais il ne faut pas qu'il y ait juste cette coupure entre CDD et CDI. Il faut que ce soit beaucoup plus progressif, que par exemple les indemnités de licenciement soient proportionnelles au nombre d'années, sans qu'il y ait cette distinction très, très claire entre deux types de contrats. Il faut faire ça. L'incertitude créée par les processus judiciaires en termes d'indemnité de licenciement et des prud'hommes est en effet un vrai problème. Cette incertitude elle-même fait que les entreprises sont très hésitantes à recruter des gens parce qu'ils ont très peur de se retrouver coincés si ça ne marche pas. Il serait beaucoup mieux d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus mécanique. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect humain important, mais je crois que le coût créé par l'incertitude des décisions prud'homales est un coût qui est coûteux pour la France.
Mais est-ce que cette flexibilité que beaucoup de gens appellent de leur vœu, qui a été mise en œuvre dans une grande mesure par les dernières réformes du travail en France, est-ce que cette flexibilité-là, Olivier Blanchard, elle ne risque pas de créer toute une catégorie de travailleurs pauvres?
Non, ça c'est une question séparée. Il me semble que d'abord, flexibilité est un mot un peu dangereux, parce que je crois qu'il faut une protection des travailleurs, j'y crois très profondément. Je crois qu'elle doit être proportionnelle au nombre d'années que les gens ont passé dans une boîte. Il faut également rendre possible des séparations quand rester ensemble n'a plus de sens économique. C'est là qu'il faut faire un énorme travail sur la formation professionnelle, et à mon avis, une des bonnes réformes en cours, c'est cette réforme de la formation professionnelle qui, à mon avis, est quelque chose d'absolument fondamental. Il faut permettre aux gens, d'abord, il faut les protéger dans leur boulot. Et puis, s'il y a une séparation, il faut pouvoir les former à des boulots qui existent. Et je pense que là, il y a pas mal de travail à faire, mais la réforme de la formation professionnelle me paraît une très bonne chose.
Et justement, plus largement, quel regard posez-vous sur la politique économique qui est menée par Emmanuel Macron depuis maintenant plus de 2 ans ?
Je pense qu'il, la plupart des réformes qu'il a en tête sont de bonnes réformes. Le problème, c'est qu'on, comme tout politique, il a un capital politique limité et on s'aperçoit qu'il risque de dépenser beaucoup du capital pour des réformes qui sont peut-être un peu moins importantes que d'autres.
Vous pensez à quelle réforme, par exemple ?
Ben, je pense que la réforme des retraites se révèle probablement assez coûteuse en matière de capital politique.
Elle n'était pas nécessaire, selon vous ?
Non, je pense qu'elle était nécessaire. La question, c'est à quelle vitesse et comment, etc. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution magique. Mais il est clair, à la lumière de ce qui est en train de se passer, que le coût politique risque d'être assez élevé pour une réforme qui n'est peut-être pas une des réformes les plus importantes que le gouvernement doit engager.
Allez, pour finir, on va se tourner une dernière fois vers John Maynard Keynes.
La vitesse à laquelle nous pourrons atteindre notre destination de félicité économique dépendra de 4 facteurs. Notre capacité à contrôler le chiffre de la population, notre volonté d'éviter les guerres et les discordes civiles, notre consentement à nous en remettre à la science pour diriger toutes les affaires qui sont proprement du ressort de la science, et le taux d'accumulation tel que le fixera la marge entre notre production et notre consommation. Le dernier de ces facteurs prendra bien soin de lui-même, une fois l'accord réalisé sur les 3 premiers. Mais surtout, ne nous exagérons pas l'importance du problème économique. Ne sacrifions pas à ces nécessités supposées d'autres affaires d'une portée plus grande et plus permanente. Ce problème devrait rester une affaire de spécialistes, tout comme la dentisterie. Si les économistes pouvaient parvenir à se faire considérer comme des gens humbles et compétents, sur le même pied que les dentistes, ce serait merveilleux.
Un extrait des Perspectives économiques pour nos petits-enfants, publié par Keynes en 1930, élu ici par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. L'économie doit rester une affaire de spécialistes comme la dentisterie, Olivier Blanchard.
Je pense, oui, que c'est un... Enfin, les questions sont terriblement techniques. Il faut en effet des experts. Mais je pense qu'il est très important pour les économistes d'expliquer autant aussi bien qu'ils peuvent le faire les raisons de leurs conclusions à un public plus large. Il y a maintenant une espèce de réaction contre les technocrates et je pense qu'il faut des technocrates, il faut des gens qui connaissent bien leur sujet et ces sujets sont pas du tout évidents, mais il y a un effort d'explication qui est absolument essentiel.
Comment là, améliorer justement ce dialogue, notamment peut-être entre les économistes et les médias ? Comment faire ce travail de pédagogie auprès d'un plus large public ?
Ben là encore, on a écrit un petit pamphlet avec Jean Tirole sur la question « L'économiste dans la cité ». Je pense qu'il est très important d'expliquer. Alors c'est vrai des politiques, et je pense que pour les économistes, c'est très important de prendre le temps d'expliquer, ce qui n'est pas du tout évident, parce que les journalistes aiment les gens qui ont des idées très simples, très extrêmes, aiment les combats, alors que la science économique, ça n'est pas ça. C'est une discussion entre spécialistes sur tel ou tel aspect, et c'est très difficile à expliquer.
Vous parlez de l'économiste dans la cité. Justement, quelle est l'influence des économistes sur le politique et quelle a été votre expérience en la matière, vous qui avez notamment conseillé Nicolas Sarkozy ?
Les politiques ont souvent un horizon beaucoup plus limité en termes de temps que les économistes. Ils écoutent. Ils écoutent, mais il faut présenter les choses de manière à ce qu'ils réagissent, à ce qu'ils absorbent. Je suis relativement optimiste. Je pense que ça dépend des pays. Mais,
ils dépendent peut-être trop d'une logique électoraliste, c'est ce que vous voulez dire ?
Ils doivent en tenir compte. Et là encore, souvent les économistes parlent sans tenir compte du tout des contraintes politiques. Et donc ça amène les politiques à ignorer l'avis des économistes. Il faut plus d'interactions. Il n'y a pas de solution miracle, mais je crois qu'il faut... Quand on propose des mesures, quand on essaie d'expliquer quelque chose, il faut être prêt à expliquer.
Et c'est quelque chose que vous continuez à faire aujourd'hui en tant que conseiller dans l'un des plus importants think tanks de Washington, le Peterson Institute for International Economics ?
C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire, mais c'est pas du tout évident. Par exemple, sur la politique budgétaire, quand on parle aux Allemands, ils ont une vision de la dette qui est presque religieuse, que la dette c'est un péché, et donc il faut arriver à trouver un moyen de leur parler qui résonne dans leur manière de réfléchir. Mais j'ai vu la même chose au Fonds monétaire. C'est pas parce que j'avais ce que je pensais être une bonne idée sur un sujet particulier qu'elle était immédiatement adoptée par l'ensemble du bâtiment. Il faut expliquer, essayer de trouver la manière d'expliquer de manière à ce que ça résonne de l'autre côté. Une bonne partie des conflits en France avec les Gilets jaunes sont des dialogues de sourds. Et il faut arriver à trouver un moyen de parler. C'est pas du tout évident.
Et comment on trouve un moyen de parler, par exemple, à quelqu'un comme Donald Trump, vous qui vivez depuis un certain temps aux États-Unis, qu'est-ce que vous pensez de sa politique économique et qu'est-ce que vous auriez envie de lui conseiller, très simplement?
Je crois qu'il y a des limites à ce qu'on peut espérer réussir, de convaincre Donald Trump de quoi que ce soit, me paraît au-delà de mes capacités en tout cas.
Donc aucun conseil à donner, notamment sur la guerre commerciale en
Si, bien sûr, j'ai plein de conseils à donner. La question, c'était est-ce qu'il écouterait, et bien sûr. Et c'est ça la question. Non, bien sûr que j'ai plein de problèmes avec la politique économique américaine. Mais pour le moment, l'équipe autour de lui n'écoute pas beaucoup l'opinion des économistes plus standards.
Alors, fort de l'expérience et des réflexions que vous avez menées tout au long de votre carrière, vous avez énormément publié, Olivier Blanchard. Quelle vision de l'économie vous auriez envie de transmettre aujourd'hui et quels conseils, par exemple, vous donneriez aux jeunes économistes en formation?
Mes préférences sont révélées par le fait que ça fait presque 50 ans maintenant que je fais de l'économie et je la fais avec passion. Je trouve que c'est un domaine extraordinaire de recherche pour les jeunes. Là encore, ça combine des questions qui sont des questions existentielles, l'utilisation d'outils qui permettent de faire des progrès. J'ai trouvé cette recherche de réponses aux questions successives que je me suis posées depuis bien plusieurs décennies tout à fait passionnante. C'est ça que j'aimerais faire passer quand j'enseigne un cours à MIT. C'est ce que j'essaie de faire passer, c'est cet extraordinaire plaisir, cette extraordinaire sensation d'arriver à comprendre un phénomène qui paraissait très complexe au départ, d'arriver à le comprendre et d'arriver à tirer des conclusions, et peut-être des conclusions de politique économique. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Si j'arrive à le faire partager à d'autres, je serais très heureux.
Eh bien, c'est donc la passion qui clôture notre entretien. Un immense merci, Olivier Blanchard, d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis Washington. Demain, troisième épisode de notre série intitulée « Profession économiste ». Nous recevrons Stéphanie Stancheva, professeure à Harvard et lauréate du prix du meilleur jeune économiste 2019. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter cet entretien et toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On attend également vos réactions et vos réflexions sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Bonne journée à l'écoute de France Culture.